Et que le Seigneur inspire Paul, mais nous aussi, pour que nous recevions la nourriture spirituelle qu'il a prévue pour nous. Merci Seigneur, parce que oui, tu as envoyé ta parole, tu l'envoies encore ce matin, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais le besoin de chacun, Seigneur. Merci Seigneur, parce que cette parole, Seigneur, c'est une parole de vie, Seigneur. Alors Seigneur, que Paul ait toute la liberté de l'annoncer et que nous, Seigneur, nous ayons ce désir de la recevoir, Seigneur. Ce désir qu'elle fasse son effet dans nos vies. Que ton nom soit glorifié ce matin. Amen.
Bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous ce matin de nouveau et c'est encore une plus grande joie de partager le pain de la parole avec vous ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous en avez une, dans l'Évangile de Marc. Évangile de Marc, et nous allons lire au chapitre 11 à partir du verset 27 jusqu'au chapitre 12. Le verset 12. Donc, Évangile selon Marc, chapitre 11, du verset 27 au chapitre 12, le verset 12. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent : Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ? Jésus répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Jésus leur répondit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il alloua des vignerons et il quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de la récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième, et ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il y avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. Le texte que nous avons lu ce matin est composé en deux parties. Il y a deux parties, mais c'est une seule scène. Et donc c'est important de le comprendre, parce que souvent, nous avons tendance à lire les paraboles pour elles-mêmes, et sans regarder le contexte dans lequel cette parabole elle est insérée. Il y a donc deux parties, dans ce récit ou ce passage. Donc la première partie, c'est un dialogue, une controverse entre Jésus et donc ces personnes dont le texte parle. Et c'est une controverse au sujet de l'autorité de Jésus. Et c'est très pertinent, hein, ce que nous avons chanté ce matin, ce que nous avons aussi entendu, où au moins j'ai relevé que plus de la moitié des chants parlaient de l'autorité, de la puissance, de l'honneur, de la gloire qui est à Dieu, qui est à Jésus. La seconde partie de notre passage, de notre texte, est donc cette parabole que nous appelons la parabole des vignerons. Et nous allons entrer dans ce texte donc chronologiquement, c'est-à-dire que nous allons commencer par considérer donc cette controverse au sujet de l'autorité de Jésus. Donc, je le redis encore une fois, nos Bibles ont fait le choix, donc, en tout cas au niveau de la répartition des chapitres, de couper un petit peu le texte en deux, parce que le chapitre 12 donc, commence avec cette parabole, mais c'est bien un texte qui devrait se lire d'un seul jet, d'un seul trait, parce qu'en fait, il y a une logique d'ensemble et nous allons la découvrir petit à petit. Nous en revenons donc à cette première partie qui concerne donc cette controverse sur l'autorité de Jésus. Alors, considérés comme les autorités juives, les autorités de l'époque, prêtres, scribes et anciens occupaient les hautes fonctions. Et en occupant ces hautes fonctions, ils croyaient pouvoir imposer leurs idées jusqu'au point de décider de la vie ou de la mort d'une personne. Ces autorités juives n'étaient-elles pas en train de se prendre pour Dieu, décider de la mort ou de la vie d'une personne? Ces autorités viennent donc à Jésus et demandent, au verset 28, d'où Jésus tient son autorité, de quel droit il agit ainsi. Et leur réaction est sans doute et certainement légitime, puisque dans les versets qui précèdent, que nous n'avons pas lus, donc à partir du chapitre 11, Jésus, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il est entré dans le temple, il a chassé les vendeurs, il a renversé les tables et il empêchait toute personne de transporter un objet à travers le temple. Jésus vient de mettre un peu le bazar dans le temple. Et donc ces autorités juives ne sont pas très contentes. Leur réaction est donc légitime. De quel droit tu as fait cela? Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi légitime parce que lorsque nous regardons au chapitre 11, et nous n'avons pas eu le temps de le lire, mais nous voyons donc, tout début du chapitre 11, Jésus entrer à Jérusalem. Et il est entré à Jérusalem sur le dos d'un petit âne. Pas de limousine luxueuse. Et comme tapis rouge, si vous lisez le texte, des vêtements et des branches qu'ils ont coupées fraîchement dans les champs voisins. C'est pas une ânerie? Ce roi des Juifs, seigneur des seigneurs, descendant de David, entrant sur le dos d'un petit âne. N'est-ce pas une plaisanterie? L'histoire de ce roi né parmi des animaux dans une étable à Bethléem. Cela a dû en faire sourire plus d'un, et cela a dû bien interpeller les gens de l'époque de Jésus, mais pas seulement aussi à son époque, puisque aujourd'hui même, lorsque les chrétiens affirment croire en un Jésus mort, ressuscité et qui revient bientôt, il y en a d'autres qui se disent « qu'est-ce que c'est que ces gens ?» L'autorité de Jésus était loin de faire l'unanimité il y a 2000 ans. Et encore aujourd'hui, c'est le cas, il me semble. Et donc, il me semble plus que pertinent de revenir sur cette question de l'autorité. Mais qui a raison et où est la vérité? Et pour répondre à cette question, il nous faut voir... Déjà, il nous faut commencer par voir ce que Jésus lui-même, il disait à propos donc de lui-même. La Bible donc rapporte les paroles de Jésus et cela va nous aider. Et Jésus va emmener toujours, quand on regarde cette histoire, ses auditeurs à réfléchir, à méditer, à se questionner pour savoir en fait qui est vraiment Jésus. Et parfois, et souvent, Jésus va déstabiliser en fait ces hommes et ces femmes qui viennent à lui. Et en particulier dans la scène que nous avons lue, ou que vous avez entendue, il met ses interlocuteurs dans l'embarras, et notamment au sujet du baptême de Jean. Ce baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Les prêtres, scribes et anciens, ils réfléchissent. Ils posent une question à Jésus et Jésus leur en pose une autre. Et en réfléchissant, ils se rendent compte qu'ils sont piégés. Dans les deux cas. S'ils répondent du ciel, ils devraient accepter l'enseignement de Jean-Baptiste. Et l'enseignement de Jean-Baptiste, c'était de dire que celui qui allait venir après lui, ben Jean-Baptiste n'était pas digne de délier en fait ses chaussures. Et donc, il devait reconnaître l'autorité de Jésus. Jean-Baptiste avait baptisé dans l'eau, mais Jésus le Christ va nous baptiser dans l'Esprit. Et ça, c'est autre chose que d'être baptisé dans l'eau. Si ces prêtres, scribes et anciens avaient répondu des hommes, le texte nous dit, la foule les aurait malmenés. Car pour eux, Jean-Baptiste était un prophète et avec certitude un prophète de Dieu. Et donc la réponse de ces autorités au verset 33, donc à la fin du chapitre 11, nous ne savons pas, et donc une échappatoire. C'est une échappatoire parce que voilà, ils voient qu'ils sont piégés et ils ne peuvent pas vraiment s'en sortir. Donc du coup, ils répondent, je ne sais pas, nous ne savons pas. Et Jésus, il ne s'en arrête pas, il ne s'arrête pas là. Et il saisit la perche qui lui est tendue en racontant cette parabole dite des vignerons. Et cette parabole dite des vignerons va en fait nous parler de l'identité de Jésus. Et c'est en comprenant l'identité de Jésus que nous allons comprendre d'où il tient son autorité ou sa puissance. On passe à la deuxième partie donc, du récit, la parabole. Et peut-être que c'est utile de rappeler qu'une parabole, c'est une comparaison. Il y a donc des éléments à comparer entre la parabole, qui est en fait une histoire fictive, et la situation réelle. Et ça, c'est intéressant de bien le retenir. La parabole est une histoire fictive, et il y a en fait donc des éléments à comparer entre cette histoire fictive et en fait la situation réelle. Et il faudra faire attention, et notamment au danger classique de se tromper dans les parallèles ou de se perdre dans les comparaisons. Et on passe à côté du message. Pour bien faire, il nous faut donc replacer la parabole dans son contexte. Et c'est très intéressant parce que nous avons lu justement les versets qui précèdent. Et ces versets qui précèdent sont le contexte de cette parabole. Elles sont en fait la situation réelle dans laquelle Jésus donc, raconte cette parabole. Et donc cette situation réelle, elle est, donc, concerne la controverse au sujet de l'autorité de Jésus. Et donc la problématique de ce texte, de notre passage, c'est Jésus, d'où tiens-tu ton autorité? Et pour y répondre, donc, cette parabole va nous donner les éléments. Et pour aller, je pense, plus vite, parce que nous n'avons pas le temps de tout reprendre, il faut se poser les bonnes questions lorsqu'on lit la parole, et notamment lorsque nous lisons les paraboles. Finalement, dans cette parabole, qui a l'autorité? Si nous la reprenons, donc les versets 1 à 12, et vous l'avez entendu et vous la connaissez sans doute aussi, cette parabole, il me semble que c'est bien le propriétaire. C'est bien cela. L'homme qui plante une vigne, il prépare tout ce qu'il faut une haie, un pressoir, une tour. Et non seulement donc, il plante une vigne, il prépare, mais il a aussi de nombreux ouvriers, des serviteurs qu'il va envoyer. Le fils du propriétaire, lui aussi, a quelque part un droit d'héritage, parce qu'il est, selon le texte, l'héritier. Et donc, en fait, en tant qu'héritier, il va donc hériter en fait, de cette vigne, et donc il aura quelque part l'autorité sur cette vigne. Dans cette parabole, toujours, les vignerons sont des locataires. Et donc, les locataires, en tant que tels, n'ont pas de droit sur la vigne. Le propriétaire a planté cette vigne et il la met en location. Les vignerons ont donc la charge, la responsabilité de prendre soin, d'entretenir, de récolter, de jouir du fruit de la vigne en donnant au propriétaire la part qui lui est due. Et ça, si vous comprenez donc ces deux éléments qui sont, me semble-t-il, clés dans la parabole, ça va nous permettre de comprendre en fait ensuite la situation réelle et aussi donc de reprendre en fait les versets que nous avons lus précédemment. Alors, si on regarde un petit peu, on prend un peu de hauteur cette parabole, finalement, il y a deux éléments clés qu'il je pense qu'il faut retenir. La parabole montre premièrement, me semble-t-il, et ça c'est ce qui est assez interpellant, la patience du propriétaire. C'est une patience qui est persistante, elle est persévérante. Il envoie un premier ouvrier, un deuxième ouvrier, un troisième ouvrier et plusieurs autres serviteurs ou ouvriers. Et finalement, en dernier lieu, son fils bien-aimé. On voit la grâce, et tout à l'heure, quelqu'un a prié. Ce temps de grâce que fait ce propriétaire pour que ces vignerons changent d'attitude et simplement rendent la part qui revient au propriétaire. Premier élément. Le deuxième élément de cette parabole, elle montre un véritable problème. Un problème de fond. Et c'est ce cœur. C'est le cœur des vignerons qui se dévoile petit à petit. Les vignerons ne rendent pas au propriétaire ce qui lui est dû. C'est ce que nous lisons dans le texte. Il envoie des serviteurs, des ouvriers, et ils s'emparent de lui. Soit ils le battent, soit ils le maltraitent, soit ils le tuent. Et ils les tuent. Donc ils ne rendent pas au propriétaire ce qui lui est dû. Ils méprisent les serviteurs du propriétaire. Et ils sont cruels. Et quand vient le fils, l'unique fils, il complote un plan sordide et il tue l'héritier. Ils n'ont aucune crainte, aucun respect de celui qui a l'autorité. Il bafoue son autorité et cherche au final à prendre la place du fils pour avoir l'héritage, nous dit le verset 7. Ce sont, nous ne le voyons pas dans ce texte de Marc, mais dans le texte parallèle en Matthieu donc 21, c'est la parabole qui suit juste celle qui a été lue pour la Sainte-Seine, donc Matthieu 21, le texte parallèle. Ils sont appelés des méchants, des misérables qui mourront misérablement. Si on résume l'histoire ainsi, cela va nous permettre de tracer les correspondances, les parallèles avec la réalité dans laquelle, donc le contexte dans lequel est racontée cette parabole. Et là, en fait, il ne faut pas qu'on se trompe au niveau des correspondances. On va commencer par ce qui est le plus simple, le plus facile. Le fils bien-aimé, jeté, tué et jeté hors de la ville. Je pense qu'il n'y a pas de doute, il s'agit bien de Jésus. Et le texte est très précis, il est tué et jeté hors de la ville. Et Jésus-Christ va mourir, non pas dans Jérusalem, mais sur le mont Golgotha, à l'extérieur de la ville sainte. Et Marc aussi, chapitre 1, verset 11, et chapitre 9, verset 7, nous parlent de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Les vignerons, ce sont ces autorités juives, prêtres, scribes et anciens. Et là encore, si nous prenons le temps de bien observer le texte, il y a un parallèle qui est construit. Regardez le verset 31 du chapitre 11. « Ils raisonnèrent ainsi entre eux. » Donc, c'est-à-dire qu'ils parlent entre eux, ils réfléchissent entre eux. Et regardez le chapitre 12, verset 7. Donc, on est dans la parabole maintenant. « Les vignerons dirent entre eux. » Dans les deux passages, donc, ils sont en train de réfléchir, de raisonner entre eux. Et donc, les vignerons, me semble-t-il, ce sont, en fait, c'est une métaphore, c'est une image de ces autorités juives. L'homme qui plante une vigne, le propriétaire, il me semble que c'est Dieu. Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui a choisi Israël, et Dieu qui va ensuite aussi construire son Église. La vigne, dont il est question, il me semble que c'est le royaume de Dieu. Le texte de Marc n'est pas explicite, mais le texte parallèle, qui se situe en Matthieu, Matthieu montre bien qu'en fait cette vigne, c'est le royaume de Dieu. Et un autre indice qui se trouve directement dans l'évangile de Marc au chapitre 11, et on en a parlé, lorsque Jésus entre triomphalement à Jérusalem, la foule, elle crie, et au verset 10, « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » C'est ce royaume de Dieu qui est en train de s'installer, de s'instaurer. Et les serviteurs que le propriétaire va envoyer, donc ces serviteurs qui, pas de chance, ils finissent mal pour beaucoup, ces serviteurs, ce sont les prophètes. Les prophètes, les messagers que Dieu va envoyer depuis l'Ancien Testament. Et c'est très intéressant aussi. Donc l'évangile de Marc ne le précise pas, mais le texte parallèle en l'évangile de Matthieu montre qu'il s'agit, et c'est Jésus qui le dit, des prophètes depuis Abel à Zacharie. Abel à Zacharie, on a parcouru tout l'Ancien Testament. Et c'est intéressant que Jésus, lui-même, parle des prophètes de Abel à Zacharie, puisque le Messie qui vient sur le dos d'un petit âne, c'est Zacharie, chapitre 9, verset 9, qui le prophétise. Il entrera sur le dos d'un âne, d'un ânon, le petit d'une ânesse. Le texte, sans doute, j'ai relu ça hier soir, hébreu, insiste sur le dos d'un âne, un petit âne, donc le petit d'une ânesse. Parce que sans doute, lorsque Zacharie a écrit, en tout cas a reçu la révélation biblique, ça devait être trop, c'est pas possible qu'un roi des rois entre sur le dos d'un petit âne. Et le texte hébreu, notre Bible, Zacharie 9, verset 9, vous pouvez le lire, il a insisté, c'est bien un petit âne, le dos d'un âne. On ne s'est pas trompé en réécrivant le texte hébreu, mais c'est bien ça, il va entrer sur le dos d'un petit âne. Et nous, ça nous, pour les hommes et les femmes que nous sommes, un roi des rois qui se présente de cette manière, c'est pas possible. C'est tout simplement hallucinant. Mais je reviens à notre parabole. Ces serviteurs, depuis Abel à Zacharie, ils ont été persécutés, fouettés, tués ou crucifiés. La parabole met donc en avant la méchanceté, l'ingratitude des vignerons et donc de ces autorités juives. Et bien sûr que la grâce, la patience du propriétaire et donc de Dieu, elle est mise en lumière dans cette parabole. Et nous-mêmes, si nous la lisons, nous serions vraiment outrés, et nous devrions être outrés de la cruauté à la fois de ces vignerons, mais aussi de la patience de ce propriétaire. Et si on en revient à ces vignerons, ils ne resteront pas impuni. Et le texte nous dit, la vigne, elle sera donnée à d'autres. C'est le verset donc 9. Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et peut-être que je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais il y a quelque chose de historique qui est affirmé ici. Et l'élément historique que je discerne, et ça, je n'en suis pas certain, mais il me semble, en 70 après Jésus-Christ, lorsque le temple de Jérusalem est détruit, donc c'est un événement historique qui est rapporté donc dans l'histoire, est-ce que cette sanction n'a-t-elle pas été déjà réalisée? Le temple est détruit, ça veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice. Et s'il n'y a plus de sacrifice, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de prêtres, il n'y a plus besoin de toutes ces autorités juives. Et on va entrer, en fait, dans une nouvelle ère. La vigne va être donnée à d'autres. Et c'est intéressant, parce que nous avons donc pris la Sainte-Cène ensemble, et nous avons donc lu ce texte de Matthieu, où, en fait, les invités ne veulent pas venir, en fait, les premiers invités. Et le roi va ordonner qu'on aille dehors et on aille prendre en fait les gens qui sont dehors afin qu'ils viennent à son repas. Est-ce que ce n'est pas ce que la réalité que nous sommes en train de voir depuis 2000 ans? Israël a refusé le Messie. Et cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus va être proclamée aux nations tout entières. Et l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des non-juifs, va annoncer le nom de Jésus dans tout le bassin méditerranéen. Est-ce que nous ne sommes pas quelque part en train de vivre ces réalités? La parabole donc, parle bien de l'ingratitude, de la méchanceté de ces vignerons. Et de l'autre côté, donc, elle révèle, et c'est ça qui est, me semble-t-il, le message central, l'identité de Jésus. Si on ne connaît pas qui est Jésus, on ne peut pas savoir d'où il tient sa puissance et son autorité. Mais si on comprend que Jésus, c'est le Fils bien-aimé de Dieu, c'est le Fils du propriétaire, c'est l'héritier, ben on comprend que tout pouvoir, toute domination, toute autorité, toute puissance, gloire et honneur appartiennent à Jésus comme nous l'avons chanté. Et il a le droit de purifier le temple, de renverser les tables, d'empêcher qu'on vende et qu'on fasse du commerce dans son temple. Et il a le droit d'appeler ce temple de Jérusalem mon temple, la maison de mon Père. Je suis l'héritier et j'ai le droit. Mais faisant cela, Jésus savait que ça allait lui coûter la vie. La citation du psaume 118, c'est donc la fin de notre texte, le confirme. Il est cette pierre rejetée, mise à mort hors de la ville. Jésus dit bien au verset 10 du chapitre 12, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Jésus savait pertinemment qu'en faisant cela, il allait mourir à la croix. Il allait perdre la vie. Mais par sa mort et sa résurrection, un nouveau temple, non fait de pierre, mais d'humains, va voir le jour et sera bâti sur la pierre angulaire. L'Église composée des Juifs et des non-Juifs, qui respectent, qui honorent et qui craignent Dieu, ceux qui produisent le bon fruit, vont en fait être ce nouveau temple. Ils auront revêtu cet habit. Premièrement, ils auront été revêtus par le manteau de Christ, par le sang de Christ. Et ensuite, ils revêtront, et nous l'avons lu, merci, Colossiens 3, ces belles œuvres. L'amour sera le fruit qui va permettre à ces hommes et ces femmes non seulement d'honorer Dieu, de craindre Dieu, mais aussi d'aimer leur prochain. Et donc, lorsque nous prenons la Sainte-Cène, lorsque nous prenons le vin, le pain, c'est la mort, le sacrifice de Jésus. Mais le vin, c'est le vin de la nouvelle alliance. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance lorsque nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce que cela implique dans la nouvelle alliance ? C'est que nous devons attendre le retour de Jésus, non pas en dormant ou en vivant de manière individualiste, mais nous devons l'attendre avec patience, avec espérance, mais dans l'amour. C'est-à-dire que chaque fois que nous prenons la Sainte-Cène, nous devons d'autant plus nous rappeler que nous devons aimer celui ou celle qui est à côté de nous. Ouais. Nous devons aimer les frères et sœurs en Christ. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et le pain et le vin que nous prenons, c'est un symbole, c'est un signe, c'est un rappel. Mais l'amour, nous devons le rendre à chaque instant, du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. C'est ça le nouveau temple. Les autorités juives ont saisi et ont bien compris le sens de la parabole. Et la fin du texte, donc le dernier verset, nous dit « Ils avaient bien compris que c'était pour eux que cette parabole était adressée et donc ils vont laisser Jésus et s'en aller. » Alors, est-ce que nous aussi, nous voulons faire comme ces autorités juives, c'est-à-dire donc partir, je vais juste me moucher. Est-ce que nous voulons faire comme ces autorités juives, partir, abandonner Jésus, quitter Jésus, ou est-ce que nous voulons plutôt venir à ses pieds? Et c'est sur ces éléments-là que j'aimerais terminer. Est-ce que nous voulons venir aux pieds de Jésus et reconnaître que c'est bien Jésus qui a l'autorité? Il est bien le roi qui est certainement entré sur le dos d'un petit âne, mais il est celui qui a toute autorité, toute puissance en tant qu'héritier. Si Jésus a toute autorité, qu'est-ce que cela va impliquer pour nous? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Et la réponse logique, immédiate et directe, c'est que nous lui sommes soumis parce qu'il a toute puissance. Et non seulement Jésus a toute autorité, mais la puissance de Dieu, c'est parce qu'il a le pouvoir de l'exercer sur son royaume. Nous avons des gens qui ont l'autorité, mais ils n'ont pas forcément le pouvoir de l'exercer. Mais Dieu, lui, il a l'autorité, il a le pouvoir de l'exercer. C'est donc illusoire, me semble-t-il, de penser qu'on peut vivre hors de la souveraineté de Dieu. Si Dieu a toute autorité, toute puissance, ça veut dire que tout ce qui est créé, tout ce qui existe dans ce monde est soumis à Dieu. On ne peut pas vivre hors de la souveraineté de Dieu. Dieu n'a pas créé un monde où il ne règne pas. Tout est venu à l'existence par le Fils, par la parole, et il continue à faire tourner le monde. Il connaît et il voit tout ce qui se passe dans le monde. Celui qui pense qu'il peut agir en secret, loin de Dieu, il vit dans l'illusion. Et celui qui décide de vivre sans reconnaître l'autorité de Dieu, il aura des comptes à rendre. Et quiconque aura bafoué l'autorité de Dieu sera jugé au moment venu. Le Dieu, réfléchissez bien, le Dieu qui a livré son propre Fils, le Fils bien-aimé, c'est-à-dire qui a permis que ce Fils soit crucifié à la croix, ce Fils qui a sanctionné ce Dieu qui a sanctionné le Fils de plein fouet, pensez-vous véritablement qu'il va épargner les misérables qui lui manquent de respect et qui osent prendre sa place? Parce que c'est ça ce qui est annoncé, prophétisé dans cette parabole. On veut prendre l'autorité de Dieu, on veut se mettre à l'égal de Dieu. Et le texte de Genèse 3 le montre déjà. Adam et Ève, lorsqu'ils sont tentés par le serpent, « Vous serez comme des dieux !» C'est juste parce que Dieu veut vous limiter. Non, on veut prendre la place de Dieu. Ce n'est pas uniquement en 2020. Ce n'est pas uniquement au temps de Jésus. C'est depuis la création du monde, avec la chute. Chaque homme et femme veut prendre l'autorité de Dieu et se mettre à la place de Dieu et choisir de sa propre vie au lieu d'entrer dans le plan de Dieu et de se soumettre à Dieu. Et on ne peut pas, Dieu va juger, et on ne peut pas reprocher à Dieu son manque d'amour et sa grâce, puisqu'il a déjà donné la preuve de son amour. Il a déversé à la croix sa grâce en envoyant tous les prophètes jusqu'à la venue et jusqu'au sacrifice de Jésus. Et c'est vrai que nous avons eu l'occasion de discuter avec un étudiant non chrétien qui est venu donc au GBU, les rencontres hebdomadaires des étudiants. Et cet étudiant qui n'est pas chrétien, il le dit ouvertement, il ne croit pas en Jésus. L'amour de Dieu, ça ne me pose pas de problème. Un Dieu qui est amour, c'est bien. Par contre, un Dieu qui est justice, qui a créé un enfer où des gens vont passer l'éternité dedans parce qu'ils ont été mauvais, ça, non, ce n'est pas ma conception de Dieu. Et donc, du coup, bah, le Dieu d'amour, ça me va bien, mais par contre, le Dieu de la justice, ouais, ça doit être une hypothèse ou simplement pédagogique, ce n'est pas réel. L'enfer ne doit pas exister, c'est juste pédagogique. C'est une pensée qui est très... populaire. Et au IIIe siècle après Jésus-Christ, certains pensaient déjà comme ça. Et aujourd'hui, même parmi les évangéliques, certains pensent comme ça. Et quand je dis certains, c'est-à-dire des théologiens. Le texte biblique me semble ne pas aller dans cette direction. Il y a l'amour qui est une réalité, et la justice de Dieu, qui est aussi une autre réalité. Les deux sont ensemble. On ne peut pas enlever l'un et l'autre. Mais si on en revient, toujours au niveau de l'application, si on veut, me semble-t-il, être cohérent vis-à-vis du texte et respecter le texte, les premiers destinataires, et là, faut faire attention, ce sont les autorités juives. Et les autorités juives, si on veut... l'appliquer à nous aujourd'hui, ce sont nos responsables d'église. Et quand je parle des responsables d'église, donc il y a le pasteur, il y a le conseil d'église, et il y a aussi les prédicateurs. Nous aurons à rendre compte de Dieu, de la manière dont nous aurons conduit l'église. Ces autorités juives, Jésus les pointe du doigt, ce sont des mauvais vignerons. Ils, eux-mêmes, ne craignent pas Dieu. Ils ne respectent pas son autorité. Et on tire l'application pour nous, si nous ne craignons pas Dieu, nous ne respectons pas son autorité, nous allons avoir des comptes à rendre. Et je suis d'autant plus interpellé et appelé aussi à être vigilant. Si je prêche la parole et que je ne respecte pas cette autorité de Dieu, c'est-à-dire l'autorité normative des Écritures, et que je fais dire au texte que j'ai envie de que vous entendiez, je vais être jugé. Et c'est vrai que c'est plus facile de préparer un message avec plein d'idées dans la tête qu'on a, et ensuite de les partager à l'Assemblée. C'est plus difficile de rentrer dans la parole de Dieu, de rechercher vraiment le message que Jésus, que Dieu a voulu nous transmettre et de le transmettre à son peuple fidèlement. C'est dur, ça prend du temps, la prédication. Mais je reviens toujours cette application. Et avant d'aller un petit peu plus loin, et il me semble de important d'affirmer cela, vivre sous l'autorité de Dieu, c'est vivre sous l'autorité de Jésus, parce que Jésus, c'est celui qui a révélé Dieu. Et vivre sous l'autorité de Jésus, c'est vivre sous l'autorité de la parole, de sa parole qui correspond donc à ce que Dieu veut. Et cette parole nous donne les commandements, les prescriptions et les règles de Dieu. Et donc, vivre sous l'autorité de la parole, c'est ça qu'il faut bien, bien saisir, c'est obéir aux commandements. Et donc, l'obéissance est la seule réponse conforme et juste à l'autorité de Dieu. L'obéissance à la parole, aux Écritures saintes, est la seule réponse conforme et juste à l'autorité de Dieu. Et finalement, deux commandements résument cette parole de Dieu, cette volonté de Dieu. Et c'est dans le chapitre 12, verset 34, où donc on a ce spécialiste de la loi qui vient rencontrer Jésus. Et finalement, Jésus résume un petit peu la volonté de Dieu. En fait, ce n'est pas si dur que ça. Il s'agit d'aimer Dieu, verset 34, et d'aimer son prochain. Et c'est vraiment, vraiment intéressant parce que si vous regardez bien votre Bible, elle est ouverte, verset 34. Donc, cela vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et regardez, on n'est pas loin du royaume de Dieu quand on a compris cela. Aimer Dieu et aimer son prochain, ça vaut mieux que tout ce qu'on peut faire, tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et Jésus dit, on n'est pas loin du royaume de Dieu quand on a compris cela. Alors 2020 s'ouvre à nous et ce sera l'occasion de montrer notre obéissance à celui à qui nous devons tout, à celui qui détient l'autorité. Jésus, ce n'est pas juste une belle ou une bonne religion. C'est celui qui a le droit de vie et le droit de mort. Si nous ne sommes pas encore soumis à Dieu, il nous faut changer de pensée. Reconnaître que l'autorité de Jésus, l'autorité, elle est en Christ, elle est dans sa parole. Si nous sommes déjà chrétiens, en fait, il nous faut progresser dans cette obéissance qui n'est jamais facile, mais dont les fruits sont certains. Reconnaître Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, et surtout comme Sauveur, c'est rapide. Ça peut être rapide en tout cas. Mais le laisser devenir Seigneur de notre vie, ça demande toute une vie. Dans chaque domaine de notre vie, si Jésus doit être le Seigneur, il y a du travail. Mais c'est un effort qui sera récompensé. Et donc alors, pour les premiers destinataires, c'est-à-dire les autorités juives, les responsables d'église, notre travail pour cette année 2020, c'est d'enseigner le peuple de Dieu à craindre Dieu, à obéir à Dieu, et notamment à se soumettre aux Écritures. Si nous sommes peut-être pas responsable, mais nous sommes chrétiens et je pense que l'application qui s'élargit, c'est pour nous-mêmes. Est-ce que nous avons reconnu que Jésus est non seulement notre Seigneur et Sauveur et par conséquent qu'il a autorité dans notre vie? Et donc c'est de marcher en fait dans l'obéissance à la parole. Et ça, ça commence dans les plus petites choses de la vie. Vis-à-vis de mon épouse, est-ce que je sais l'aimer? Est-ce que je veux l'aimer comme Christ a aimé l'Église? Et si je suis une épouse, est-ce que je suis prêt à me soumettre à Dieu et me soumettre à mon époux, comme l'Église était soumise à Christ? Si je suis parent, est-ce que je veux éduquer mes enfants dans la crainte de Dieu? Si je suis enfant, est-ce que je veux honorer mon père et ma mère, mes parents? Tout cela, en fait, c'est cette parole qui va prendre racine en nous et qui va nous faire porter ce bon fruit et qui va aussi correspondre à ce bel habit dont il est question dans la parabole que nous avons lue. Alors, pour reprendre simplement et terminer par rapport à cette parabole, les chrétiens sont les nouveaux vignerons. C'est ça qu'il est important de retenir en fin de compte. Ce sont les nouveaux vignerons à qui la vigne a été confiée. Il ne peut pas être comme ces premiers vignerons, c'est-à-dire ingrats et mauvais. Ils ne peuvent pas être comme ça. Il leur faut vraiment prendre soin de la vigne, c'est-à-dire celles et ceux qui sont déjà dans la vigne, et donc les hommes et les femmes qui sont dans cette assemblée, mais aussi de celles et ceux qui vont être ajoutés à la vigne. Et en effet, la vigne de Dieu, elle s'étend au-delà de cette assemblée. Il nous faut donc inviter donc celles et ceux qui sont en dehors de cette assemblée à entrer, en fait, dans la vigne de Dieu. Et cela peut se faire notamment par l'annonce de l'Évangile. Nous sommes combien dans cette assemblée ? Une poignée. Et combien y a-t-il d'habitants en Rennes Métropole ? Il y a d'autres, je suis convaincu, depuis que je suis engagé avec les groupes bibliques universitaires, il y a 50 000 étudiants sur Rennes. Et nous avons deux petits GBU, deux petits groupes qui se réunissent une semaine sur deux ou chaque semaine. Si je n'étais pas convaincu que sur ces 50 000 étudiants, il y a des personnes que Dieu a déjà préparées d'avance, qui, en entendant l'évangile de Jésus-Christ, vont se tourner vers lui, j'aurais arrêté. Je serais parti faire autre chose. Mais j'ai la conviction que dans cette multitude, même si la majorité vont rejeter l'évangile, celles et ceux que Dieu a préparés d'avance, en entendant l'évangile de Jésus-Christ, la puissance d'un Jésus mort, ressuscité, ils vont venir à Jésus et ils vont se soumettre à son autorité. C'est la raison pour laquelle nous continuons en fait ce ministère et ce service. Alors je veux aussi nous encourager, chaque chrétien ici dans cette assemblée, à continuer à être un témoin de Jésus là où il est. Parce que chaque fois que nous vivrons conformément à l'évangile, que nous obéirons, que nous craindrons Dieu, que nous le respecterons, ben nous serons en fait ce bon vigneron ou ces bons vignerons. Et ce que Dieu nous demande de faire et d'être, ben Dieu va nous donner en fait la capacité de le faire. Mais il nous faudra toujours nous rappeler que c'est Jésus, le roi des rois. C'est lui qui a autorité dans tous les domaines de notre vie et c'est lui qui va conduire aussi la moisson et la mission jusqu'à son terme. J'aimerais prier pour conclure avec vous. Toutes les fois où nous ne t'avons pas honoré, pour chaque fois où notre égoïsme, notre égocentrisme a pris le dessus. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent, il est plus facile de désobéir que d'obéir. Mais béni sois-tu, Seigneur, parce que en Jésus-Christ, tu ne nous comptes plus nos péchés, nos manquements, notre désobéissance. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as racheté tous ces manquements, toutes nos fautes. Et parce que nous avons cru au sacrifice de Jésus et dans le pardon qui lui était attaché. Seigneur, nous voulons désormais vivre cette nouvelle vie en recherchant ta volonté, en pratiquant ta justice. Alors Seigneur, je veux prier pour chacun de nous ici, pour celles et ceux qui t'appartiennent déjà, que nous puissions apprendre pour cette nouvelle année à t'obéir encore mieux, à progresser dans la connaissance de Jésus, de sa parole. Et je prie aussi, Seigneur, pour celles et ceux qui peut-être sont en train de cheminer, qui sont en train de chercher, d'essayer de comprendre qui tu es. Je prie pour que ces personnes, progressivement aussi, en entrant dans les Écritures, comprennent de mieux en mieux qui tu es et que prennent la décision de te suivre. Merci, Seigneur, pour cette assemblée qui se réunit chaque semaine, chaque dimanche, que ce soit l'occasion pour chacun en venant d'apporter aussi les bonnes œuvres que tu as préparées et aussi d'être un sujet d'encouragement les uns pour les autres. Et merci Seigneur, parce que tu es celui qui a toute autorité et tu sais diriger et gérer ce monde mieux que n'importe qui. Merci parce qu'en tant que souverain, nous pouvons avoir l'assurance que c'est toi qui va conduire ce monde, même s'il n'est pas tout jaune, il est bien noir même, à son accomplissement. Et Seigneur, nous te remercions, Seigneur, d'être celui qui a toute autorité, qui a toute puissance et qui est souverain, parce que la manière dont tu vas gérer le monde et dont tu vas gérer notre propre vie, elle sera mieux que ce que nous l'aurions fait. Alors merci Seigneur de encore nous amener à tes pieds, de nous amener dans ta parole, qu'elle soit la lumière sur notre sentier et qu'elle nous éclaire pour cette année 2020. Dans le nom précieux de Jésus, nous pouvons prier. Amen.